Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Elle a marqué l'histoire du rap français avec un album vendu à 700 000 exemplaires, Dans ma bulle, sorti en 2006. Depuis, Diams a arrêté la musique, s'est converti à l'islam, a décidé de porter le voile et de partir vivre aux Émirats arabes unis, autant de choix qui n'ont pas toujours été compris par une partie de son public. Elle raconte aujourd'hui son cheminement et pourquoi elle s'est tournée vers la religion dans un documentaire diffusé à Cannes et une longue interview publiée par Le Parisien le 27 mai. Retour sur le parcours de Diams, aujourd'hui dans Code Source, avec Emmanuel Marol, chef du service culture du Parisien. Emmanuel Marol, le dimanche 15 mai, à Paris, dans le salon d'un hôtel, vous rencontrez Diams pour une interview rare et exclusive pour Le Parisien. Racontez-nous cette rencontre.
C'est une rencontre assez importante, parce que ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est le genre d'interview que vous attendez avec à la fois de l'impatience et de l'appréhension. Diams, je l'ai beaucoup rencontré, beaucoup interviewé à l'époque où elle était star du rap, chanteuse, musicienne. Et là, c'est pas du tout la même personne, a priori, que j'allais retrouver. Je suis assis dans le hall de l'hôtel. Elle arrive dans mon dos, si je puis dire. Elle arrive de l'extérieur, je crois. Et tout de suite, elle m'interpelle en me disant « Ah, Emmanuel, comment tu vas ? Ça fait plaisir de te retrouver. » Et c'est très spontané. Et en quelques secondes, je retrouve... Mélanie, puisque c'est son vrai prénom, telle que je la connaissais à l'époque, comme deux personnes qui ne s'étaient pas vues depuis très très longtemps et qui prenaient des nouvelles l'une de l'autre.
Si vous rencontrez Diams, c'est à l'occasion de la présentation à Cannes le 26 mai d'un documentaire sur sa vie qu'elle a co-réalisé. Ce documentaire et cette interview permettent sans doute aujourd'hui de mieux la connaître, de mieux la comprendre. Mais justement, Emmanuel Marol, avant de dire ce qu'on y apprend, on va d'abord raconter l'histoire de Diams comme le public l'a vécu à l'époque, de l'extérieur. Mélanie Georgiades est née le 25 juillet 1980 à Chypre, à Nicosie. Son père, qui est chypriote, travaille dans une société de construction de routes. Sa mère est assistante de direction. Ses parents voyagent beaucoup. Chypre donc, le Liban, Londres. Où est-ce qu'elle grandit ?
Quand ses parents arrivent à Paris, elle s'installe dans le centre de la capitale, du côté du Champ de Mars. Et puis après, ses parents se séparent. Quand elle a 2 ans, son père part vivre en Grèce. Et là, sa mère se retrouve toute seule avec sa fille et commence à déménager en banlieue, à différents endroits. Et elle atterrit finalement dans l'Essonne, pas très loin d'Orsay, où elle grandit avec sa maman dans un petit pavillon de banlieue. Et puis peut-être avec un petit peu moins de moyens financiers quand elle a vécu toute seule avec sa mère.
Quand elle est ado, à 15 ans, en 1995, Mélanie Georgiades fait une tentative de suicide.
C'est vraiment le mal-être adolescent. Il y a vraiment le manque du père pour elle. Elle va le voir de temps en temps, quelques fois par an, pendant les vacances en Grèce. Et puis au fil du temps, elle n'a plus vraiment de lien avec son père et elle en souffre intérieurement. C'est une ado un peu paumée, elle est déscolarisée ou quasiment. Enfin, en tout cas, elle n'est pas très très copine avec le milieu scolaire. Elle finit par faire une tentative de suicide qui est sans doute un appel au secours à cet âge-là.
Mélanie Georgiades a aussi été victime de violences de la part de son compagnon quand elle avait 17 ans. Emmanuel Marol, c'est dès l'adolescence qu'elle se lance dans le rap. Elle sort un premier disque en janvier 1999, à l'âge de 18 ans.
À l'époque, il faut se souvenir qu'il y avait des possibilités comme ça pour des jeunes de banlieue qui écoutaient du rap, qui avaient envie d'écrire, qui avaient envie d'en faire, d'appeler une radio qui s'appelait Génération et qui permettait comme ça à des auditeurs de faire des freestyles à la radio. Et Mélanie, c'est ce qu'elle a fait un jour. Elle a vraiment marqué les esprits et l'animateur lui a dit « Ah, comment tu t'appelles, mec ?» ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et elle lui dit « Non, mais je suis une fille. » Et puis après, de fil en aiguille, elle rencontre des personnes qui gravitent autour du monde de la musique, du rap. Et puis à un moment, on lui propose un contrat pour faire un disque. Donc elle a une avance, elle a de l'argent et elle commence à travailler sur ce premier disque qui s'appelle « Premier mandat » qu'elle fait avec un acolyte. C'était assez, je sais pas comment dire, mais impressionniste, un peu flou dans l'intention. Et c'est un disque qu'on a presque oublié, c'est-à-dire qui s'est vendu à quelques milliers d'exemplaires à peine.
Son deuxième album, Brut de Femme, sort en 2003 et il contient un tube DJ.
Cette chanson, c'est une chanson hyper dansante qu'on peut reprendre en chœur. Elle est construite autour d'une vieille chanson des années 50 qui s'appelle Quien Sera. C'est un mambo qui a été repris par plein de gens, par Dean Martin, par Benny King, etc. C'est une jeune nana qui est dans une boîte de nuit et qui dit à une autre:
tu veux pas que je t'égratine, tu galères, ben viens, je te présente DJ derrière les platines. Je suis pas une bombe latine, ni une bombe platine, DJ. Je suis pas une bombe latine, ni une bombe platine, DJ. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête.
En gros, viens pas me faire chier et va voir justement le DJ là. Je peux te le présenter si tu veux, d'où le nom de la chanson.
Emmanuel Marolles, vous voyez Diams sur scène la première fois dans les mois qui précèdent la sortie de son troisième album, fin 2005, un concert organisé dans la banlieue de Lille.
Son équipe me propose d'aller la voir en concert dans un quartier sensible, on va dire, de la banlieue lilloise. C'est une sorte de MJC de quartier et Diam se monte sur scène et on sent tout de suite que le concert va être compliqué et qu'elle va peut-être même se retrouver face à un public à la fois qui est content de la voir, en tout cas pour une partie des gens qui sont là, et il y a une autre partie qui est là pour foutre le bordel, clairement, et voire même essayer d'interrompre le concert. Il y a eu une ou deux fois, elle a dit « Écoutez, il va falloir que vous vous calmiez parce que sinon je vais arrêter ». Je me rappelle même qu'elle avait parfois interrompu certaines chansons.
Son troisième album, Dans ma bulle, donc, sort le 6 février 2006 avec ce tube, La Boulette.
Oui, La Boulette, c'est une chanson vraiment énorme. La Boulette, c'est elle. Elle se surnomme comme ça parce qu'elle est un petit peu rondouillarde et puis elle dit elle-même que toutes les petites nanas de l'époque qui ont un peu de problème avec leur physique, on peut les considérer comme des boulettes. Elle parle d'elle dans cette chanson, mais pas seulement. Elle parle aussi de la jeunesse de l'époque.
Comme un goût de haine quand je marche dans ma ville, y a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000, comme un goût d'erreur quand je vois le tour dessus.
Donc c'est vraiment une façon de, à la fois d'être dans l'intime, dans ce qu'elle ressent elle, et puis aussi de regarder ce qui se passe autour d'elle. Et là, le refrain, c'est quelque chose qui va faire de cette chanson un hymne. En gros, la vie, moi, Diams, je ne l'ai pas apprise sur les bancs de l'école et en allant au collège ou au lycée, je l'ai appris dans cette vie quotidienne et dans cette façon d'observer le monde qui m'entoure.
Dans cet album, il y a aussi « Ma France à moi ».
« Ma France à moi », c'est une vraie chanson engagée à l'époque. Et elle oppose sa France à elle, d'où le titre « Ma France à moi », à une France qui va aimer un certain nombre de choses qui ne sont pas du tout ses valeurs à elle et encore une fois, les valeurs de la jeunesse de l'époque.
« Ma France à moi, elle parle fort, elle vit à bout de rêve, elle vit en groupe, parle de bled et déteste les règles. Elle sèche les cours le plus souvent pour ne rien foutre, elle joue au foot sous le soleil, souvent du coca dans la gourde. »
Et au bout d'un moment, cette chanson, elle bascule dans autre chose et dans comme un cri du cœur, même dans sa voix. La voix se fait plus violente, plus intense. Et là, à ce moment-là, elle va dire... Donc il y a le côté la France un peu poussiéreuse, le côté c'était mieux avant et on n'aime pas trop cette époque. Et évidemment, elle, c'est une idée qu'elle supporte pas.
Alors aux armes, la jeunesse, ma France à moi leur tiendra tête jusqu'à ce qu'ils nous respectent.
Emmanuel Marolles, il faut aussi dire un mot d'un autre titre, Jeune demoiselle.
Dans mes rêves,
Bah là, c'est Diams intime. Donc en gros, elle fait un peu son CV idéal et son casting idéal du mec qu'elle recherche.
Jeune demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui pourra me donner des ailes, un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as des critères, babe, laisse-moi ton email.
Donc voilà, c'est une chanson féminine à défaut d'être féministe, jeune demoiselle.
Un mec qui rêve de famille et de toucher le ciel. Donc si t'as des critères, babe, laisse-moi ton email.
Et cet album, dans ma bulle, est un énorme succès.
Oui, l'année de sa sortie, c'est le disque qui se vend le plus en France. Il dépasse les 700 000 exemplaires. C'est un énorme, énorme carton. À l'époque, c'était extrêmement rare. On avait connu des gros succès populaires avec NTM, avec IAM, avec MC Solar, mais c'était des gens qui étaient installés depuis très, très longtemps. Et d'un seul coup, il y a cette petite rappeuse qui arrive avec ses chansons hyper percutantes et qui vend 700 000 exemplaires en une année.
Diams fait un face au lecteur du Parisien, une interview événement menée par un panel de nos lecteurs, publication le jeudi 25 mai 2006, la une et les pages 2 et 3 du Parisien. C'est une forme de consécration pour elle.
Elle est vraiment contente de faire cet exercice parce qu'elle mesure l'importance du face au lecteur du Parisien. C'est peut-être la plus jeune artiste qui fait un face au lecteur au Parisien à cette époque-là. Et c'est la première rappeuse de mémoire. On n'a jamais fait un face au lecteur. C'est quand même deux pages dans le Parisien avec quelqu'un qui vient du monde du rap à cette époque-là. Et puis le Parisien, c'est son journal. Quand le face au lecteur s'est terminé, elle avait dit « Je suis super fier de l'avoir fait ».
Vous êtes devenue la numéro un.
Ouais, paraît-il,
courtisée,
maintenant,
on
reste jamais très longtemps numéro un, donc l'idée c'est de rester. Et j'avais pas visé cette place-là, très sincèrement, l'idée c'est plus de pouvoir faire ça très longtemps, donc je préfère être numéro 10 longtemps que numéro 1 deux mois. Donc pour le moment, je suis très 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 contente, bien sûr, de tout ce qui m'arrive.
Les regards ont changé sur vous.
Ouais, bien sûr.
Dans les années qui suivent ce succès, vous gardez le contact avec elle, Emmanuel Marolle. Par exemple, en janvier 2007, vous la contactez pour un article intitulé « Ces filles qui secouent le rap ».
On s'échangeait des textos assez régulièrement et c'est notamment comme ça que, alors qu'elle n'était plus du tout en promo pour faire des interviews, elle m'avait gentiment répondu et rappelé pour faire ce sujet sur les nouvelles artistes féminines dans le rap.
Mais dans les années 2008-2009, elle ne vous répond plus.
Pas de réponse. Et je me rappelle qu'un jour, je l'ai sollicité pour un sujet, je me rappelle plus exactement quoi, mais pas de réponse non plus. Et puis la date de parution du sujet allait arriver, et donc je me suis permis d'insister un petit peu. Et là, il y a sa manageuse qui m'appelle en disant « Écoute, je sais que ça t'arrive de communiquer directement avec Mélanie. C'est plus la peine de la contacter là dans les prochains mois, elle te répondra pas. » Bon, je prends plus de nouvelles et je la laisse tranquille, puisque apparemment, c'était le message qu'on me faisait passer.
Le 8 octobre 2009, l'hebdomadaire Paris Match sort des photos exclusives de Diams qui vont beaucoup faire parler.
Oui, on découvre à ce moment-là une Diams telle qu'on ne la connaissait pas du tout jusqu'à maintenant. Elle est totalement voilée, elle sort d'une mosquée et là l'article de Paris Match nous explique qu'elle s'est convertie à l'islam et qu'elle est devenue très pratiquante et que donc elle a complètement changé de vie. Et là, ça fait beaucoup parler parce que tout ce qu'on vient de se dire sur sa personnalité, sur ce qu'elle incarnait, sur ce qu'elle racontait dans ses chansons, paraît remis en cause. À ce moment-là, on dit « mais elle a pété les plombs », c'est un modèle absolument désastreux pour les jeunes filles de banlieue qui la prenaient jusqu'à maintenant pour un modèle d'émancipation. Donc ça a été des commentaires assez violents parce que c'était des questions sans réponse, finalement. On se disait, mais qu'est-ce qui lui arrive ?
Quelques semaines plus tard, le 16 novembre, elle sort un nouvel album et on comprend à ce moment-là que ce sera sans doute le dernier, album intitulé SOS. Emmanuel Marolle, ce disque, vous l'écoutez en avant-première avec d'autres journalistes à Paris, dans les bureaux de la maison de disques EMI.
On est rassemblés dans l'auditorium d'EMI où on nous dit, vous allez écouter l'album de Diams, elle ne parlera pas, elle ne fera pas d'interview. Et c'est la seule possibilité d'écouter l'album avant sa sortie. Donc on se retrouve à plusieurs dizaines de journalistes, la salle est pleine, et le disque est diffusé. C'est un disque qui s'appelle SOS, et qui porte bien son nom, parce qu'on sent à travers ça toute la souffrance par laquelle Diams est passée. Elle dit par exemple dans une chanson qui a un titre anglais qui s'appelle I am somebody, donc je suis quelqu'un littéralement.
Petite star, je suis fini, vu de la clinique psychiatrique, j'en sors en vrac, vrac, les médocs me montent au crâne.
Donc on en conclut, il y avait eu des rumeurs, mais on en conclut à travers ça que effectivement elle a fait un séjour en hôpital psychiatrique. Et puis l'album se termine par une chanson qui est assez incroyable, qui s'appelle « Et si c'était le dernier ?». C'est une chanson de 10 minutes où elle hurle, elle pleure, elle raconte sa descente aux enfers.
Ces putains de médocs sont venus me couper les jambes au fil du temps, sont venus me crier les neurones. Ces charlatans de psy ont bien vu briller mes euros.
Donc on est tous un petit peu estomaqués par ce qu'on entend, et le dernier couplet, Diams apparaît dans la salle, elle le rappe en direct devant nous. Avec énormément d'émotion, on sent qu'elle est au bord des larmes, mais elle est là. Elle est présente, ça fait plaisir de la voir, de la revoir physiquement. Et elle ajoute juste à la fin de la chanson, à notre intention, « Je voulais juste dire à ceux qui se posent des questions que je vais très bien. » Et c'est le seul moment, pendant des années, où elle s'est adressée directement aux journalistes.
Comment se vend ce disque ?
Beaucoup moins bien que dans ma bulle. C'est moitié moins à l'arrivée, quelques centaines de milliers d'exemplaires, parce qu'il y a une partie du public qui l'a lâché, clairement. La tournée, c'est pareil, elle est beaucoup moins importante que la tournée de Dans ma bulle. À l'époque, elle avait fait une cinquantaine de zéniths. Là, c'est des plus petites salles de 2000 places. Elle finit par une belle date à Paris, mais c'est pas du tout le triomphe de Dans ma bulle.
Diams va vivre à l'étranger, notamment au Maroc, puis aux Émirats Arabes Unis. En 2012, elle publie un livre racontant son parcours, livre intitulé « Autobiographie ». Et à cette occasion, elle répond à l'émission 7 à 8 sur TF1.
Au moment où je décide de me convertir, j'avertis mes proches, j'avertis les gens qui travaillent avec moi. Et il s'avère que, en fait, j'ai été prise de court par la presse à scandale, quoi.
Effectivement, c'est un tremblement de terre. On vous voit en photo sortant de la mosquée. Et le monde entier découvre que Diams, la rappeuse, effectivement, porte le voile.
Ouais. Ah, ça, c'était du vol. On m'a volé. On m'a volé une partie intime de ma vie. On m'a volé...
Votre mère savait pas.
Vos amis savaient. Ma mère ne m'avait jamais vu habillée comme ça. Ni mes grands-parents, ni mon oncle, ni mes amis. Tout le monde a perdu pied, hein. Mon entourage proche, certes, mais les gens qui travaillaient avec moi, j'ai perdu quasiment une grande partie de mon équipe parce que plus personne n'avait confiance.
Et puis ensuite, plus rien ou presque pendant 10 ans. Que fait-elle pendant ces 10 années ?
Elle se reconstruit personnellement parce que la musique, le succès, la pression, tout ça l'a beaucoup abîmée. Et puis elle construit une famille, elle se marie une première fois, elle a une fille qui s'appelle Mariam. Après, elle se sépare de son premier mari, elle divorce et elle s'est remariée. Et aujourd'hui, elle a 2 autres fils, Abraham qui a 7 ans et Lukman qui a 5 ans. Et parallèlement, elle a créé une association qui s'appelle Big Up, une association humanitaire qui vient en aide notamment aux orphelins en Afrique. Elle a aidé à l'aménagement d'un orphelinat au Mali. Et après, elle a mené des actions dans différents pays, des actions plus ponctuelles. Et tout ça grâce à ce qu'elle a gagné au moment où elle a triomphé dans la musique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sa maman, travaillant dans une maison de disques, a très très bien géré les choses pour elle. Elle s'est mise à gagner énormément d'argent quand elle a vendu beaucoup de disques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, encore, elle continue à pouvoir vivre de la musique.
Vous renouez le contact avec elle sur Instagram en 2019. Ensuite, vous échangez de façon épisodique, notamment chaque début d'année. Et au printemps, le 29 avril, est annoncée la sortie prochaine d'un documentaire sur la vie de Diams, produit pour la plateforme de vidéo Brutix.
Oui, ça a été une surprise qui est venue du Festival de Cannes. L'événement était en train de dévoiler sa programmation et a annoncé une séance spéciale avec un film qui s'appelle Salam, co-réalisé et co-écrit par Mélanie Georgiades, en l'occurrence Diams, qui suscite instantanément de la curiosité. On sait à ce moment-là pas grand-chose du documentaire, si ce n'est que ça va raconter la vie de Diams, ou en tout cas ce qu'elle est aujourd'hui.
Grâce à ce documentaire que vous avez vu et à la longue interview exclusive que Diams vous a accordée le dimanche 15 mai, vous en savez beaucoup plus aujourd'hui sur ce dont souffrait la rappeuse et sur ce qu'elle vivait en 2007, 2008, 2009. Et là, on revient en arrière. Diams raconte, en résumé, qu'à cette période, elle n'arrivait pas à vivre.
En fait, elle dit elle-même qu'elle était son plus grand mystère. C'est ce qu'elle dit dans le documentaire. Quand elle descend de scène, quand les lumières s'éteignent, elle souffre de solitude dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'elle est habitée par une forme de mal-être. Alors, elle m'a dit pendant l'interview, et elle en parle dans le doc, qu'il y avait une forme de peur de la mort qui la hantait depuis toujours ou presque. Et puis, elle est enfermée dans une vie d'artiste et de star qui lui convient pas complètement. Elle me disait pendant l'interview, le moment suspendu, le moment génial que je vivais tous les jours, c'était les 2 heures où j'étais sur scène. Sauf que après, il y avait les 22 autres heures avant le prochain concert. Et là, c'était une souffrance permanente. Sauf qu'elle n'a pas le droit de souffrir. Quand elle commençait à dire aux gens autour d'elle « je vais pas bien », ils disaient « mais de quoi tu te plains ? T'as l'argent, t'as le succès, tout le monde t'adore. Mais tu te rends compte, les gens qui sont vraiment malheureux autour de toi, il y a des gens qui crèvent de faim et toi, tu te plains ?» Elle m'expliquait ça dans l'interview, elle dit « mais il n'y a que des gens qui sombrent dans des dépressions profondes et qui connaissent des vraies maladies psychologiques, voire psychiatriques, qui peuvent comprendre ça. »
Un jour, en janvier 2008, sa manageuse, Nicole, se rend compte de son mal-être.
Oui, c'est un témoignage qu'on voit dans le documentaire. Nicole Schluss, qui est sa manageuse, qui a été aussi la manageuse de M, de Vanessa Paradis, raconte qu'elle déjeune avec Mélanie à Paris et qu'à un moment, Mélanie relève ses manches comme ça pour montrer ses avant-bras. Et là, elle se rend compte qu'elle a des scarifications sur les bras, mais comme si c'était un appel au secours finalement, parce que elle se scarifie les bras, mais aussi le visage. Et elle me disait pendant l'interview, mais j'ai revu des photos qui étaient parues dans la presse à l'époque, et les gens pouvaient croire que j'avais juste une égratignure, enfin un truc bizarre, alors qu'en fait, moi, je savais très bien que c'était ça.
Diams est accueillie dans un hôpital psychiatrique.
Oui, il y a un moment où elle va vraiment pas bien, et là, elle se retrouve en hôpital psychiatrique. Et elle vit, et elle le raconte très très bien dans le documentaire, la camisole chimique, c'est-à-dire le fait de prendre 8 ou 9 médicaments par jour, où elle va passer par tous les stades, c'est-à-dire d'être complètement éteinte et gazée par les médicaments, et puis après totalement désinhibée, avec des phases où elle est prête à faire n'importe quoi. Elle voit un psy 20 minutes par jour, et elle me disait, mais moi je me retrouvais à l'hôpital, où je passais d'une suractivité artistique à rien, et on me proposait simplement de voir un psy pendant 20 minutes. Mais moi, c'était pas 20 minutes que j'avais envie de parler avec quelqu'un, c'était 5 heures, c'était des heures, toute la journée. Là, elle trouvait pas non plus une solution à ses problèmes et une façon de se soigner pour aller mieux.
Quand Diams sort de l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne à Paris, tout n'est pas réglé, loin de là, et elle va même faire une tentative de suicide. Plus tard, un soir, Diams dîne avec son amie chanteuse Vita.
Vita et Diams sont les meilleures amies du monde, elles ont fait un duo qui s'appelait Confession Nocturne. Et donc, elles dînent ensemble, et puis il y a une copine de Vita qui est là. Et puis cette copine en question, à un moment, dit « bon, bah, moi je vous laisse, je vais prier ». C'est une musulmane, et donc elle a son rituel qu'elle veut faire à ce moment-là. Et Diams, très spontanément, comme ça, sans se poser plus de questions, lui dit « Ah ben, je vais te suivre, j'ai envie de le faire aussi. » Et donc, elle se prosterne, elle fait la prière, et c'est une vraie révélation pour elle. C'est une révélation quasi physique, c'est-à-dire le fait d'avoir le front, le visage par terre comme ça, et de se prosterner, elle sent à ce moment-là un bien-être et une connexion à Dieu. C'est quelque chose qui, pour une fois, à ce moment-là, alors qu'elle ne sait pas comment s'apaiser, l'apaise instantanément.
Quelques temps plus tard, Diams et Vita sont en vacances dans l'océan Indien, sur l'île Maurice.
Une nuit, sous les étoiles, elle est sur la plage et elle commence à lire les 100 premières pages du Coran. Et là aussi, c'est une seconde révélation pour elle. C'est-à-dire que toutes les interrogations qu'elle avait par rapport à la vie, la mort, elle a le sentiment à ce moment-là de trouver les réponses dans le Coran. Et là, à ce moment-là, elle se dit, il faut que je change de vie, il faut que je change des choses. Et elle fait une liste de ses envies. En premier, elle met « appeler ma mère » pour lui raconter tout ça. 2, changer de numéro. En gros, tous les gens qui ont mon numéro de l'époque où j'étais artiste, il faut qu'ils ne l'aient plus. 3, me convertir. Et 4, faire mon dernier album. Et ce point de bascule-là, c'est finalement le point de bascule de sa vie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle se dit « Diams, c'est terminé. En tout cas, Diams, tel que tout le monde l'a connu, c'est derrière moi et ça ne sera plus possible. »
Elle a pu être accusée de faire du prosélytisme, mais elle s'en défend.
Oui, parce que elle raconte son histoire personnelle. Elle me dit, à l'époque, on disait, ouais, t'es une porte-parole des filles de banlieue, t'es un modèle, etc. Elle dit, mais moi, j'ai jamais voulu être ça. Et puis, on a commencé à faire de moi une porte-parole politique, une porte-parole de banlieue, etc. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'elle vit sa foi musulmane personnellement, et elle n'est pas du tout là pour faire du prosélytisme.
Et est-ce qu'elle dit pourquoi elle a choisi de porter le voile ?
Elle me dit dans l'interview que le voile, pour elle, c'est quelque part, c'est pas un sujet, en fait. Que c'est un choix personnel et que le cheminement pour se rapprocher de Dieu, ce qui lui fait du bien, bah, ça passe par un certain nombre de choses. Ça passe par le jeûne, ça passe par le fait d'aider l'orphelin, et ça passe par le fait de porter le voile tel qu'elle le porte. Mais elle ajoute, mais ça n'engage que moi, surtout.
Emmanuel Marolle, pendant cet entretien, est-ce que vous la sentez heureuse ?
Je la sens vraiment heureuse. Je l'ai sentie apaisée avec son histoire, avec son passé. Elle s'en est beaucoup, beaucoup posé des questions, mais maintenant elle a trouvé des réponses. Et il y a une scène qui est très, très forte dans le documentaire, c'est Diams qui revient aujourd'hui dans le Zénith de Paris, où elle a triomphé à l'époque, dans un Zénith qui est totalement vide, où on la voit sur scène. On sent qu'elle est contente d'y retourner, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle a ajouté, quand on en a discuté, à l'époque, les salles étaient pleines, mais moi, j'étais vide. Et là, aujourd'hui, quand j'y suis revenu au Zénith, la salle était vide, mais moi, j'étais pleine, parce que je vais bien aujourd'hui.
Ne viens pas faire le gangster. À mes yeux, t'es qu'un mortel. Tu vas crever tout comme moi, tout comme elle. Tu vas mourir, et puis qu'est-ce que t'auras laissé? Que de la merde, je te conseille de mettre ton cœur à l'essai. Car j'ai compris après des années d'égarement que ni les hommes ni l'argent ne font le bonheur des gens. Aucun humain n'a eu le pouvoir de me soigner quand après la gloire dans le noir je me suis noyé.
Merci à Emmanuel Marolle. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, réalisation Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode publié chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez échanger avec nous sur Twitter, @CodeSource, ou nous écrire codesource@leparisien.fr.
Tout ce que je mérite, c'est un royaume, pas d'avoir à faire des courbettes devant des clowns et des gnomes. Je prône l'honneur d'un peuple, celui de nos pères et nos mères. Lève ta main en l'air.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.